en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, si j'ai choisi la couleur verte pour sujet de ma conférence aujourd'hui, ce n'est pas tant parce que c'est la couleur emblématique de l'Institut de France, ce n'est pas non plus parce que c'est ma couleur préférée, mais c'est parce qu'un étudiant m'a fait, il y a déjà une vingtaine d'années, une remarque tout à fait pertinente qui m'a invité à réfléchir et à enquêter. C'était un jeune doctorant qui travaillait avec un collègue de Paris 4, dont le sujet de thèse était l'iconographie de la forêt dans la peinture française du XVIe au XVIIIe siècle. Et sagement, son professeur l'avait envoyé visiter les musées de province pour prendre contact direct avec les œuvres, plutôt que de travailler sur des reproductions. C'était en outre une époque où il n'y avait pas de banque de données informatisée. Et donc ce jeune homme avait fait le tour d'un certain nombre de musées de province, et puis il était venu me voir pour parler des couleurs, et il avait fait cette remarque qui m'avait frappé. C'est curieux, dans les salles de peinture, dans tous les musées, entre les primitifs et les impressionnistes, tout est marron. Marronasse même, il avait dit, pour prendre un terme dépréciatif. Et quand les peintres s'attaquent au paysage, on a l'impression qu'ils peignent toujours l'automne. Pourquoi ? Alors, je lui avais expliqué que chimiquement, les pigments étaient souvent instables, qu'ils évoluaient et que certains s'étaient transformés au fil du temps. Il le savait, mais il ne pensait pas que c'était à ce point-là. Je lui expliquais aussi que nous voyons les couleurs que les siècles passés nous ont laissées dans des conditions de lumière qui n'ont aucun rapport avec les conditions de lumière qu'ont connues les artistes et leur premier public jusqu'à l'apparition de l'électricité. Les écarts sont très très grands. Nous le savons tous, bien sûr, mais qui parmi nous, quand il visite un musée ou une exposition, se souvient qu'il voit les œuvres d'art, et notamment les tableaux, dans des conditions d'éclairage qui n'ont aucun rapport avec les conditions d'éclairage d'origine. Et alors, j'ai testé mes propres étudiants pour voir si ces problèmes leur étaient connus. Je ne leur en avais jamais parlé, je l'avoue, et ça ne leur était pas connu. Donc ça m'a conduit à réfléchir, à enseigner sur ces questions, et surtout à me demander quelle était, parmi les principales couleurs, quelle était celle qui était la plus fréquemment victime de ces deux travaux du temps, au fond. L'évolution chimique des pigments et les transformations des lumières qui éclairent les œuvres. Eh bien, à coup sûr, c'est la couleur verte, la grande victime. Chimiquement, en peinture comme en teinture, le vert est une couleur extrêmement instable jusqu'à l'apparition des pigments de synthèse dans le courant du XIXe siècle. C'est une couleur changeante. On a d'ailleurs un certain nombre de remarques de grands artistes qui se plaignent de cette instabilité. Et pour moi qui suis historien, ce qui est fascinant, c'est que cette couleur chimiquement instable en peinture et en teinture, peu à peu, a été associée symboliquement à tout ce qui était instable. L'enfance, la jeunesse, l'amour, l'espérance, tout ça, ça change, ça tourne. Mais aussi la chance, la fortune, le hasard, le jeu, l'argent. Ça tourne aussi comme la roue de la fortune. Et tout ça, plus ou moins, s'est associé à la couleur verte. Les tapis de jeu, par exemple, sont verts déjà au XVIe siècle. La langue verte, c'est la langue des joueurs de cartes. L'argent est vert symboliquement bien avant l'apparition du billet dollar. Donc il y a là un rapport tout à fait intéressant entre le chimique et le symbolique. Mais ça n'a pas beaucoup bénéficié à la couleur verte qui est plus souvent prises en mauvaise part qu'en bonne part. Toutes les couleurs, bien sûr, sont ambivalentes, mais le vert a ses mauvais aspects plus fréquemment mis en avant que les bons. Et il y a encore l'idée, qui vient de loin, que le vert porte malheur, et pas seulement au théâtre, ni sur les bateaux, mais un peu partout. Et c'est une idée qui... J'essayais de retrouver d'où elle venait. Elle n'est pas là dans l'Antiquité, mais elle est déjà là au cœur du Moyen-Âge, quand le vert devient la couleur du diable et surtout des créatures du diable. Il y a tout un bestiaire vert qui l'accompagne, des démons, des petits êtres étranges. Les ancêtres de nos petits hommes verts sont déjà là au XIVe et XVe siècle. Les sorcières ont des rapports étroits avec la couleur verte. Bref, il y a un dossier sur la symbolique du vert qui est en prise directe avec les pigments et les colorants qui servent à fabriquer cette couleur. Alors, l'idée m'est venue de vous présenter, un peu au pas de course, pardonnez-moi, une histoire du vert dans la peinture européenne, une histoire qui sera plus pigmentaire qu'esthétique, mais les deux choses sont complètement liées, bien sûr, et je voudrais le faire... non pas des origines à nos jours, parce que vous le verrez, les origines sont sans vert. Le vert n'apparaît qu'assez tardivement. Et pour ce faire, je m'appuierai donc sur mon PowerPoint. Dans les grottes, les peintures pariétales ne présentent jamais ni de vert ni de bleu. Du rouge, beaucoup de rouge, du noir, du jaune, du blanc... Pas de vert, pas de bleu. Ici, c'est le plafond célèbre d'Altamira. En Espagne du Nord, nous sommes 15 000 ans avant le temps présent, mais ça n'est pas une exception. C'est la palette habituelle, même si c'est un peu trahi à la projection, que l'on rencontre sur ces peintures pariétales. Et ça dure des millénaires de la peinture sans couleur verte et sans couleur bleue. Ça continue dans la peinture romaine et dans la peinture grecque. Le bleu et le vert ne sont pas complètement absents, mais on peut avoir des ensembles peints, comme ici à Pompéi, la villa des Griffons, la grande salle très célèbre, pas un pouce de peinture verte et très très peu de peinture bleue. D'ailleurs, Campline, dans son Histoire naturelle, nous parle de la peinture grecque. Il est bavard sur la peinture grecque et de la peinture romaine. Il mentionne les quatre couleurs dont se servent les très grands peintres, le rouge, le blanc, le noir et le jaune. Pas de vert, pas de bleu. C'est au point d'ailleurs que dans la seconde moitié du XIXe siècle, il y a eu des débats, passionnants d'ailleurs du point de vue historiographique, entre archéologues, philologues, historiens de l'art, neurologues même, pour savoir si les Grecs et les Romains étaient aveugles au bleu et au vert. Surtout les Grecs, plus que les Romains. Surtout les Grecs, parce que ce sont deux couleurs, soit qu'ils ne nomment jamais, soit qu'ils nomment mal, par rapport à ce que nous qualifions de vert ou de bleu, et des couleurs qu'ils représentent extrêmement rarement. Les débats ont été passionnés, les querelles de savants également. Aujourd'hui, on a un peu abandonné cette idée que les Grecs anciens pouvaient être aveugles au bleu et au vert. Ça n'est pas parce que dans une langue donnée ou du point de vue archéologique ou artistique, on ne représente pas une couleur, qu'on ne voit pas cette couleur. Les problèmes se posent tout à fait autrement. Mais enfin, on l'a cru entre les années 1860 et 1914. Tout le monde ne l'a pas cru, mais certains l'ont cru, notamment certains neurologues. Dans la peinture romaine, on voit quand même un peu de peinture verte. Voici une peinture célèbre, un trompe-l'œil qui représente un jardin dans la célèbre villa de Livie, la femme d'Auguste, quelque part au nord de Rome. Nous sommes au tout début de l'ère chrétienne. Et ce vert a bien tenu. Ce sont pour l'essentiel des terres vertes qui sont présentes ici et qui ont traversé les siècles parce que nous sommes, au fond, dans la cave. Et ce vert et tous les autres pigments ont été préservés de la corruption. Cette discrétion du vert dans la peinture occidentale, non pas absence, mais discrétion, traverse tout le haut Moyen-Âge, que ce soit dans la peinture murales ou dans la peinture de manuscrits, on ne trouve pas beaucoup de verre. On peut même trouver, comme ici, des ensembles picturaux où cette couleur est totalement absente. Le bleu également, vous le voyez. C'est la crypte de Saint-Germain d'Auxerre. Nous sommes autour de l'an 1000, un peu avant, un peu après. Il n'y a pas un pouce de peinture verte. Et voilà un manuscrit contemporain, un évangéliaire de la région, peint dans la région de Trèves, toujours vers l'an 1000, montrant l'empereur, beaucoup de rouge, bien sûr, héritier du pourpre de l'Antiquité, mais ni vert ni bleu. Alors bien sûr, j'ai triché un peu en choisissant des images où on ne voyait ni vert ni bleu, mais il y en a quand même énormément, et les choses ne commencent à changer qu'à l'époque féodale, au cœur du Moyen-Âge, où le vert et le bleu se revalorisent au fond grandement, avec la chevalerie, avec la courtoisie, avec le culte du printemps, du verger, certaines poésies qui cherchent à chanter la nature. Les peintres, et notamment les enlumineurs, mettent en scène plus de vers que pendant les siècles précédents. Mais il y a encore des domaines où le vers n'est pas très fréquent. C'est le cas de l'héraldique. Moi qui suis spécialiste des armoiries, je connais des ensembles comme cette page d'un armorial de la fin du XIIIe siècle où il y a 30 armoiries différentes. Pas une seule ne comporte la couleur verte, qu'on appelle sinople dans la langue française du blason, terme qui apparaît assez tard, hein, dans la seconde moitié du XIVe siècle. L'indice de fréquence de la couleur verte en héraldique dépasse rarement dans un ensemble d'armoiries données 5%, alors que pour le rouge, gueule en termes de blason, on est autour de 50 ou 60%. Même chose pour le blanc et pour le jaune, un peu moins pour le bleu et le noir. Donc le vert est très très en retrait, il n'est pas absent, mais son indice de fréquence est faible un peu partout en Europe. Ça fait un demi-siècle que j'essaye de comprendre pourquoi, et je n'ai pas de réponse à vous donner, ou de réponse satisfaisante, seulement des embryons de réponse. Peut-être que la difficulté de peindre en vert et de teindre en vert peut expliquer cette rareté du vert dans les armoiries. Dans l'enluminure, donc, on trouve du vert, et c'est toujours en petite surface, bien sûr, et quand on est historien de la peinture, c'est un paramètre qu'il faut toujours prendre en compte. Est-ce que l'on peint en grande surface, en moyenne surface, en petite surface ? L'enluminure, ce n'est pas la peinture murale, bien sûr, et c'est plus facile de fabriquer du vert pour l'enluminure que pour le mur ou même les grands panneaux. Mais à la fin du Moyen-Âge, quand même, le vert, d'une part, se revalorise et de l'autre, est bien plus présent dans la peinture européenne que pendant le haut Moyen-Âge et que pendant l'Antiquité. À preuve, les recueils de recettes que nous avons conservés, et nous en avons conservé beaucoup, voilà une page évidemment illisible à la projection, c'est un réceptaire, un recueil de recettes destiné aux peintres et aux enlumineurs. Nous sommes à Nuremberg dans les années 1380-1400, des conseils pour fabriquer les couleurs. Nous avons conservé beaucoup de recettes de ce genre, un très grand nombre, surtout pour la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne. Ce sont des textes difficiles à étudier parce qu'ils sont écrits dans un latin de cuisine. Ils se copient les uns les autres à l'infini, donc les recettes sont difficiles à dater. Et puis, il manque toujours des indications de quantité, de durée, de proportion. La recette va nous dire, si tu veux faire un peu de bonne peinture verte, prends un peu de ceci, mélange avec une certaine quantité de cela, fais bouillir un certain temps, ajoute un peu de, etc. Les chiffres ne sont jamais indiqués comme si ce savoir se transmettait oralement et pas par écrit, ou était laissé à la liberté et à l'invention de l'artiste. C'est exactement la même chose dans les recettes qui se ressemblent d'ailleurs, destinées à la médecine, à la pharmacopée, à la cuisine, à l'alchimie, aux teinturiers, ce sont les mêmes types de textes avec le même vocabulaire, les mêmes verbes, prendre, broyer, laisser macérer, faire bouillir, laisser reposer, c'est-à-dire c'est toujours la même chose. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces recueils, aussi bien pour la fin du Moyen-Âge que pour l'époque moderne, la couleur verte occupe beaucoup de place, pas autant que le rouge, qui est la couleur préférée et la couleur par excellence et qui va le rester jusqu'au XVIIIe siècle, aussi bien chez les peintres que chez les teinturiers. Mais le vert vient en deuxième position parce que fabriquer et surtout fixer le vert, c'est quelque chose qui est difficile. Donc pour moi, historien des couleurs, j'ai là un matériel documentaire intéressant, malgré ses difficultés, que je peux aujourd'hui compléter, corriger avec les analyses faites en laboratoire. Voici une page d'un manuscrit enluminé qui est en train d'être non seulement photographié, mais étudié quant à ses pigments. Les méthodes se sont enrichies au cours des 20 dernières années. Je suis d'assez près ces expériences qui nous apprennent beaucoup, notamment pour identifier la nature des pigments employés à telle époque, à tel endroit, sur tel support. Autrefois, les analyses étaient surtout chimiques, c'est-à-dire qu'il fallait faire des micro-prélèvements. Aujourd'hui, on fait aussi des analyses de type physique, sans micro-prélèvements. On fait tomber sur la couche colorée une lumière d'une certaine qualité et on observe comment cette lumière se comporte au contact du pigment et on en tire un certain nombre de conséquences. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne suis pas assez savant, mais j'ai compris cela. Et il y a des couleurs pour lesquelles c'est plus difficile que d'autres. Ce sont notamment toutes celles qui ne sont pas minérales, mais organiques. Donc en croisant ces informations avec celles que nous apprennent les recueils de recettes, puis, pour l'époque des imprimés, les premiers manuels et traités de peinture, soit dus à des peintres, soit dus à d'autres auteurs, mais destinés à des peintres, on connaît assez bien les pigments utilisés dans la gamme des verts et leurs insuffisances, parce que c'est un leitmotiv qui revient souvent, y compris de la part des grands peintres. « Ah, si nous disposions dans la gamme des verts des pigments de même qualité que ceux dont nous disposons dans la gamme des rouges. » Pour la peinture médiévale et pour la peinture moderne, jusqu'au XVIIIe siècle, les principaux pigments verts sont l'amalachite, un verre de cuivre naturel qui, c'est pas une pierre précieuse, mais c'est quand même un minéral qui coûte cher, très cher, cousin de l'azurite, et qui a tendance, en vieillissant, à noircir ou à se décolorer un peu, selon la qualité de la malachite. Il y a les terres vertes, la célèbre terre de Vérone, déjà connue de la peinture romaine, terre de Bohême, terre de Chypre, elles sont très belles, un vert un peu grisé, très séduisant dans la peinture italienne, mais elles sont stables, mais peu couvrantes, et souvent on les utilise en sous-couche. En outre, l'emploi de liant est relativement compliqué. Il y a les verts végétaux, ceux qu'on appelle les verts de vessie, parce qu'on les conserve en général dans une vessie de porc, du jus d'iris, du jus de poireau, des baies de nerprin surtout, une plante de la famille de la bourdaine, qui peuvent être très belles, mais qui ne sont pas très couvrantes et surtout s'évaporent assez rapidement, ne tiennent guère. Et puis, il y a les verres de cuivre artificiels, ceux que l'on fabrique, et on connaît déjà toutes sortes de recettes dans l'Antiquité pour ce faire, en déposant sur des lamelles de cuivre, soit du vinaigre, soit des acides quelconques, soit même de la chaux ou de l'urine. Certaines recettes, d'ailleurs, parlent de l'urine d'homme ivre, comme la meilleure, ou bien de l'urine d'âne, comme meilleure parmi le monde animal. Ça donne des verres magnifiques, extrêmement poison, hein, c'est ce que nous appelons le vert de gris, et surtout des pigments qui sont non seulement dangereux, mais instables. Ils attaquent le support sur lequel ils sont posés et ils ont tendance à contaminer les couleurs voisines. Et malgré tous ces défauts, on a utilisé ces verres de cuivre artificiels dans la longue durée, en général en petite surface, mais certains peintres n'ont pas hésité, vous allez le voir, de le faire en surface plus grande. Et puis, ce qui est frappant pour nous, bien sûr, c'est que les peintres sur panneaux, plus tard les peintres sur chevalets, les peintres sur murs, et même la plupart des enlumineurs, ne mélangent jamais, avant une date avancée, du jaune et du bleu pour faire du vert. C'est quelque chose qui apparaît nettement aux analyses, dont les recettes ne parlent jamais, ni les manuels de peinture avant le XVIIe siècle. C'est donc une pratique tardive qui relève pour une part du tabou sur les mélanges, qui est un fait général de société et de sensibilité. Ce sont les vieux tabous hérités du Lévitique et du Deutéronome que le christianisme médiéval a repris. Ne pas mélanger deux produits d'origine différente, ne pas mélanger en matière de pigments un produit animal avec un produit végétal, un produit végétal avec un minéral. On le fait quand même dans certains cas. Mais ça explique peut-être pourquoi on ne mélange pas de jaune et de bleu pour faire du vert, alors que nous tous, dès l'école maternelle, nous avons appris à procéder ainsi. Voici les quatre pigments principaux utilisés pour la peinture verte de l'Antiquité romaine jusqu'au XVIIIe siècle. Ici, la malachite, un bloc de malachite. Ici, de la terre verte de Bohême, celle-ci. Ici, une plaque de cuivre oxydée, le verre de gris. Et puis ici, des baies de nerprin que l'on va transformer soit en teinture, soit en peinture, parfois même en laque, et que l'on conserve dans des vessies de porc. C'est le fameux verre de vessie. Ici, deux schémas qui peuvent expliquer pourquoi on ne mélange pas de jaune et de bleu pour faire du vert. En haut, le classement ordinaire des couleurs quand on les pose sur un axe en Europe, depuis Aristote jusqu'à Newton. En bas, le spectre, découvert par Newton en 1666, spectre qui est resté jusqu'à aujourd'hui, le classement de base, le classement scientifique de base pour ordonner les couleurs. On ne le connaît pas avant la fin du XVIIe siècle. Donc quand on est historien, et historien de la peinture encore plus, évidemment, pour les périodes antérieures au XVIIIe siècle, c'est ce classement-là qu'il faut prendre en compte dans les analyses et dans les réflexions. Il va du blanc au noir, à côté des blancs il y a les jaunes, au milieu le rouge, puis vert, bleu, violet et noir. Et on voit très bien que vert n'est pas entre bleu et jaune, il est entre rouge et bleu. D'ailleurs, pour l'œil médiéval et encore pour l'œil de la Renaissance, poser du rouge à côté du vert, ça n'est pas du tout un contraste violent comme dans nos feux tricolores, c'est au contraire très doux, c'est presque du camailleux. Donc en termes de regard posé sur les œuvres, en termes de sensibilité, méfions-nous des anachronismes. Ne prenons pas pour contraste violent, dans un tableau donné du XVe ou du XVIe siècle, la juxtaposition des verts et des rouges. C'est assez doux pour l'artiste et pour ses spectateurs. Donc pour que le vert trouve sa place entre le jaune et le bleu, ici, dans le spectre, il faut attendre en effet que Newton ait découvert le spectre et proposé un nouveau classement des couleurs, un classement dans lequel il n'y a plus de place ni pour le noir ni pour le blanc, ce ne sont plus des couleurs à part entière, ce sont des non-couleurs même pour certains. Et le classement est bouleversé. Le violet, par exemple, qui, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, est toujours entre bleu et noir, n'a pas beaucoup de rapport avec le rouge, de nouveau, va en avoir. Dans le spectre, on a ici les ultraviolets, et de l'autre côté, les infrarouges, mais si on fait un cercle, le rouge et le bleu ont un enfant, pourrait-on dire, qui est le violet, ce qui est inconnu avant Newton. Alors malgré cela, de très grands peintres arrivent à faire des fers magnifiques, ici, hein, les tableaux les plus célèbres de toute l'histoire de la peinture. Le mariage Arnolfini, enfin on ne l'appelle plus comme ça aujourd'hui, de Jan van Eyck, 1435, la magnifique robe de la jeune femme, qui est bien enceinte, puisqu'on en a beaucoup débattu, est-ce qu'elle est enceinte, est-ce qu'elle n'est pas enceinte. Au sommet du lit, on voit sculpter l'image de Sainte Marguerite, qui est la patronne des femmes enceintes. Van Eyck a réussi à faire un très beau verre en utilisant un verre de cuivre, mais posé sur une sous-couche de terre verte, ce qui évite au verre de cuivre d'attaquer le support. Ici, ce sont des planches de bois avec des rehauts de malachite et de nerprin. Donc, il a utilisé les quatre pigments principaux pour peindre en vert dans cette première moitié du XVe siècle. Les très grands peintres des verts, ce sont les Vénitiens du XVIe siècle, notamment Giorgione. Voici encore un des tableaux les plus célèbres de toute l'histoire de la peinture. La tempête, un des plus énigmatiques aussi. Nous sommes 1507, 1506, 1507. Un détail ici avec des verts bleutés. Giorgione, comme tous les Vénitiens, utilise beaucoup la terre de Vérone, mais traitée d'une façon particulière. Ça donne ces tons verts qui, ici, ont bien résisté. Ce n'est pas toujours le cas au travail du temps. Titien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un magnifique peintre des rouges, mais aussi des verts, et surtout véronèse. Ce que nous appelons vert véronèse n'existe pas au XVIe siècle. C'est une création, c'est un pigment de synthèse du XIXe siècle qui a reçu le nom de vert véronèse pour des raisons commerciales et publicitaires. Mais Véronèse est quand même un peintre magnifique des verts. Voici le suicide de Lucrèce, 1580, avec ici encore des verres de cuivre associés à de la malachite et puis des verres végétaux. Donc, malgré les difficultés, les grands peintres s'en sortent et n'ont pas besoin de mélanger des pigments jaunes et des pigments bleus pour fabriquer du vert. D'ailleurs, quand on fait des analyses, et les très grands peintres ont la chance d'avoir leurs tableaux qui ont été analysés du point de vue pigmentaire depuis longtemps, jamais, jamais, jamais on ne trouve chez Van Eyck, chez Velázquez, chez Raphaël, chez Caravage, chez Rubens, chez Poussin, chez Vermeer, jamais on ne trouve le mélange du jaune et du bleu pour faire du vert. Il n'empêche que dans le courant du XVIIe siècle, on réfléchit beaucoup sur la hiérarchie des couleurs, leur généalogie, notamment chez les peintres. Voici un schéma qui est sorti de l'atelier de Rubens. L'atelier de Rubens, à Anvers, c'est un endroit fréquenté par 150 ou 200 personnes, dont des hommes de science. Et un ami de Rubens, un jésuite, François d'Aguillon, a proposé des 1613-1614, dans une publication consacrée à l'optique, ce schéma-là qui nous montre, ici en bas, j'ai du mal avec la souris, pardonnez-moi, qui nous montre comment le vert, au fond, est le produit de l'association du jaune, ici, et du bleu, ici. Et c'est quelque chose qui va se développer dans la première moitié du XVIIe siècle. On réfléchit beaucoup chez les peintres, mais aussi chez les teinturiers, combien de couleurs sont nécessaires à minima pour fabriquer toutes les autres. Et alors, on part de 7 couleurs, puis 6, puis 5, peut-être 3 seulement, on en débat beaucoup. Finalement, s'impose l'idée, au milieu du XVIIe siècle, que 5 couleurs suffisent. Je vais vous lire un passage d'un traité consacré aux couleurs dû à un très grand savant, l'Irlandais Robert Boyle, un chimiste polyvalent, qui écrit en 1664. Il n'y a que très peu de couleurs simples ou primitives, dont les diverses combinaisons produisent en quelque sorte toutes les autres. Car bien que les peintres puissent imiter les teintes des innombrables couleurs que l'on rencontre dans la nature, je ne crois pas qu'ils aient besoin, pour mettre en valeur cette extraordinaire variété, d'employer d'autres couleurs que le blanc, le noir, le rouge, le bleu et le jaune. Ces 5-là, diversement combinés, et aussi, si je puis dire, décombinées sont suffisantes pour créer un nombre considérable de couleurs, un nombre tel que ceux qui ne sont pas familiers de la palette des peintres ne peuvent même pas imaginer. C'est un beau texte, mais évidemment, pour la couleur verte, il est dépréciatif, puisque la couleur verte ne fait plus partie de ces couleurs que j'appellerais de base, celles à partir desquelles on peut fabriquer toutes les autres. Il y a, comme le montre déjà le schéma d'Aguillon, au rang supérieur, le blanc, le jaune, le rouge, le bleu et le noir. 1664, pour le texte que je viens de lire, c'est-à-dire 2 ans avant que Newton ne découvre le spectre et qu'il fasse sortir le noir et le blanc de l'ordre des couleurs. Et désormais, on va vivre sur cette double idée. Le classement normal des couleurs, c'est le spectre. Plus de noir, plus de blanc. Le vert trouve sa place entre le bleu et le jaune. Et ce n'est pas une couleur primitive, comme dit Boyle, une couleur principale, une couleur primaire, comme on va dire plus tard, mais une couleur complémentaire au même titre que l'oranger et le violet. Il est descendu d'un cran dans la hiérarchie des couleurs. Et le XVIIIe siècle va avoir la passion des nuanciers, de la colorimétrie, la couleur désormais mesurable, reproductible. On se passionne pour les nuances et les sous-nuances. Le XVIIIe siècle n'est pas un grand siècle du vert, c'est un grand siècle du bleu, mais ça profite quand même au vert, notamment parce qu'un chimiste amateur, un pharmacien de Berlin, Dippel, a inventé de manière un peu accidentelle un pigment nouveau, le bleu de Prusse, dans les années 1720. Il a gardé son secret pendant quelques années, puis celui-ci a été connu. Ça a permis de diversifier, non seulement en peinture, mais un peu en teinture aussi, la gamme des bleus, spécialement des bleus foncés et par extension des verts foncés, parce que on est à une époque, au XVIIIe siècle, où on mélange du bleu et du jaune pour faire du vert, spécialement du bleu de Prusse avec du jaune de plomb ou du jaune d'étain. C'est une pratique courante, mais qui scandalise certains grands peintres. Voici un tableau de Jean-Baptiste Oudry, La Ferme, vers 1740. Oudry, à l'Académie royale de peinture, en 1742, se scandalise que certains de ses collègues mélangent du jaune et du bleu pour faire du vert. Ça lui semble absolument indigne d'un grand peintre. Et lui ne le fait pas, ce qui lui permet de faire des vers magnifiques, et surtout des vers qui n'ont pas été trahis par le travail du temps. Le fait qu'il se scandalise vers 1740 montre qu'il est un des derniers à ne pas mélanger le jaune et le bleu pour faire du vert. C'est une pratique qui est devenue omniprésente dans la peinture européenne, mais qui trahit parfois les peintres. Voici un autre tableau parmi les plus célèbres de l'histoire de la peinture, et un tableau qui va en s'abîmant. Quand je l'ai vu quand j'étais jeune homme, il n'avait pas l'aspect qu'il a maintenant, quand je l'ai revu il y a quelques mois. C'est la charrette de foin de Constable. Constable a fait des vers, magnifiques sans doute, en utilisant du bleu de Prusse et du jaune d'étain, et il a été trahi à la fois par le bleu de Prusse qui s'est quelque peu évaporé et qui s'est grisé, et le jaune d'étain qui est devenu plus ou moins ocre. Et ça donne ceci. Bon, la projection trahit encore un peu plus, c'est pas aussi abominable, mais quand même, pour un des tableaux qui est parmi les plus beaux de cette époque, seulement 1820. Une autre étape importante après Newton, après Daguillon, c'est au XIXe siècle la publication en 1839 de l'ouvrage de Chevreul, immense savant, immense chimiste, de la loi du contraste simultané des couleurs, qui contient un certain nombre de théories dont vont s'emparer les artistes, qui n'ont pas tous lu Chevreul, parce que lire Chevreul, c'est un travail un peu pesant, mais il y a des abrégés des théories de Chevreul, notamment en 1867, un immense succès de librairie pour la grammaire des arts du dessin de Charles Blanc, 1867, pardon, grammaire des arts du dessin, avec deux gros chapitres consacrés aux couleurs, où sont résumées les théories de Chevreul. notamment son cercle chromatique, sa théorie reprise bien sûr des époques précédentes, distinguant des couleurs primaires et des couleurs complémentaires, le vert n'étant qu'une complémentaire, et sa théorie du contraste simultané et de la façon dont l'œil est aussi important que la matière colorante dans le rendu des couleurs. Et sur la toile, il n'y a plus besoin de poser un pigment vert, mais il suffit de juxtaposer du bleu et du jaune, sans même les mélanger, les rapprocher, pour que dans l'œil se fasse ce fameux mélange optique qui va faire que l'on va voir du vert. C'est ce qu'a fait Monet, par exemple, pour ce tableau magnifique qui s'appelle « L'été », 1875, et beaucoup d'impressionnistes ont suivi ici Chevreul, de même qu'après eux, les pointillistes, les divisionnistes, des post-impressionnistes, etc., etc. Encore ne faut-il pas être trahi par ces bleus et par ces jaunes, même si on ne les mélange pas, si on se contente de les juxtaposer. C'est ce qui est arrivé à Seurat, pour un autre tableau célébrissime, le dimanche d'été à la Grande Jatte. Seurat a, en certains endroits, juxtaposé, pas partout, c'est ça qui est étonnant, juxtaposé des bleus et des jaunes pour faire des verts, et en certains endroits, ces jaunes, ici ce sont des jaunes de chrome, ce ne sont plus des jaunes d'étain, se sont abîmés, se sont oxydés, et ont un peu trahi l'économie chromatique du tableau. Ça pose le problème des restaurations. Que faire? Jusqu'où aller? Avec la peinture ancienne, c'est compliqué parce que les peintres du Moyen-Âge, de la Renaissance, du XVIIe siècle encore, ont tout à fait conscience que les pigments sont instables et qu'ils vont évoluer. Et ils travaillent en conséquence. On a la chance d'avoir des lettres de Titien et des textes de Véronèse pour le XVIe siècle vénitien, où ils expliquent très bien qu'ils font en sorte, dans la façon de travailler leurs pigments, que la postérité va disposer d'un état X du tableau qui n'est pas l'état premier, mais qui est un état ultérieur qu'ils ont voulu, qu'ils ont pensé. C'est pour ça que nous, restaurateurs, quand nous voulons remettre un tableau dans son état premier, ce qui est un peu utopique, bien sûr, nous trahissons la volonté de l'artiste qui ne voulait pas du tout pour la postérité l'état premier, mais un état ultérieur qu'il avait pensé à l'avance. Pour les peintres du XIXe et du XXe siècle qui font confiance aux pigments de synthèse, le problème se pose différemment et naturellement ça crée des difficultés, d'où ces controverses que vous connaissez autour de la restauration des œuvres d'art et spécialement des tableaux. Les théories de Chevreul ont quand même un poids considérable sur la peinture, même chez des peintres où on ne les attendrait pas. Voilà le célèbre Café de nuit de Van Gogh, 1888, où Van Gogh écrit à son frère Théo, dans deux lettres, qu'il a choisi de donner comme dominante le rouge et le vert, une primaire et une complémentaire. Même un peintre aussi libertaire, si je puis dire, que Van Gogh, est presque esclave de cette théorie scientifique. Il y a peu de peintres qui, dans cette période de la deuxième moitié du XIXe siècle et les premières décennies du XXe, qui n'appliquent pas des théories scientifiques. Voilà deux exemples de peintres alors tout à fait libres. Le douanier Rousseau, voilà l'octroi dans les années 90, qui est un immense peintre des verts. Il va avoir une exposition au musée d'Orsay dans quelques mois. Et Valoton, autre peintre affranchi de toute théorie scientifique, lui aussi un immense peintre des verts, une couleur avec laquelle d'ailleurs il a des problèmes particuliers parce que quand il était adolescent, il a causé involontairement la mort d'un camarade dans le garage ou dans la cave, je ne sais plus, de la maison familiale. Il y avait des produits pour teindre en vert et lui et son camarade ont joué avec et c'était des produits tout à fait poison. Et le camarade en est mort et Valoton a gardé toute sa vie un problème particulier dans ses rapports avec la couleur verte. mais c'est un immense peintre des vers. Voici un paysage un peu tardif, c'est Valoton âgé vers 1920. Voici un Kandinsky, immense ennemi de la couleur verte. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire un texte que je tire de son livre très célèbre « Du spirituel dans l'art », 1910. Kandinsky, comme beaucoup de ses collègues au Bauhaus, croit au contraste simultané, à la classification spectrale des couleurs et à la distinction entre primaire et complémentaire. Et alors le vert est un peu méprisé au Bauhaus, malgré toute l'affection que j'ai pour le Bauhaus, je le regrette. Voici ce qu'écrit Kandinsky, 1910. « Le vert absolu est la couleur la plus anesthésiante qui soit. Elle ne se meut dans aucune direction et n'a aucune consonance de joie, de tristesse ou de passion. Elle ne réclame rien, n'attire vers rien. Cette absence permanente de mouvement est certes une propriété bienfaisante pour des âmes et des hommes fatigués, mais devient, après un certain temps de repos, très très fastidieuse. La passivité est la propriété caractéristique du vert pur, propriété se parfumant cependant d'une sorte d'onction, de contentement de soi. C'est pourquoi, dans le domaine des couleurs, le vert correspond à ce que représente, dans la société des hommes, la bourgeoisie. C'est un élément immobile, satisfait de lui-même, limité dans toutes les directions. Ce vert est semblable à une grosse vache, pleine de santé, couchée, figée, capable seulement de ruminer en contemplant le monde de ses yeux stupides et inexpressifs. » C'est vraiment très méchant pour la couleur verte. Évidemment, « Du spirituel dans l'art » est un livre passionnant, mais qui a beaucoup vieilli. L'idée que les couleurs infléchissent les sentiments pèse sur l'âme, c'est évident. Mais ce que nous dit Kandinsky, ça vaut surtout pour Kandinsky. On ne peut pas généraliser de manière universelle. C'est pourtant ce qu'on a fait un peu au Bauhaus. Je vais vous lire une autre phrase, plus courte, d'un collègue de Kandinsky et de Klee, que j'aime tant, Klee. C'est une phrase que j'emprunte à Johannes Itten. Lorsqu'il est jeune professeur au Bauhaus, en 1923, il a prononcé, puis écrit et répété dans tous ses ouvrages, cette phrase terrifiante. « Les lois de la couleur sont éternelles, universelles, absolues, hors du temps, aussi valables autrefois qu'à l'heure actuelle. » C'est une phrase qui va exactement à l'encontre de tout ce que je fais dans mon travail d'historien des couleurs, qui au contraire met en valeur le relativisme culturel des problèmes et des pratiques, des perceptions. Et tous les historiens des sciences savent bien que les savoirs ne sont jamais définitifs, ne sont pas des vérités, mais seulement des étapes dans l'histoire des savoirs. Malgré cela, donc, au XXe siècle, et je termine par là, le vert est en retrait dans la peinture, le cubisme, l'abstraction, voici un Mondrian, c'est banal, des années 30, s'en tient souvent aux couleurs primaires, jaune, bleu, rouge, associées au noir et au blanc, plus de place pour le vert. Ça continue avec l'abstraction la plus contemporaine. Voilà un assemblage un peu pas très réussi de tableaux de Rothko, où la couleur verte n'est pas absente, mais beaucoup moins employée que d'autres. Et quand moi, je visite des expositions de jeunes plasticiens, je suis frappé de la façon dont ils emploient rarement le vert, comme si le vert était victime de son ancienne mauvaise réputation, couleur instable, de son statut dévalorisé de couleur non pas principale, primaire, mais seulement complémentaire, c'est-à-dire secondaire, et peut-être aussi un peu victime de sa mauvaise réputation. Le vert, cela porte malheur. J'espère que ce n'est pas le cas à l'Institut de France. Merci à tous.
Merci Michel Pastoureau pour cette ce voyage dans le verre, dans les verres. Alors, je ne savais pas, je suis content de l'apprendre, que le vert est la couleur de la bourgeoisie, comme le rouge est donc la couleur de la classe ouvrière. Et ça, c'est une découverte. Mais alors, j'ai été très, très intéressé aussi d'apprendre l'aspect chimique qu'il y a dans le vert, qui n'est pas... Moi, je suis vraiment... Je pensais que c'était un mélange, naïvement, jusqu'à aujourd'hui, 3 février 2016, que le vert était toujours un mélange du bleu et du jaune. Et je constate, par exemple, en voyant la robe de Madame Arnolfini, que c'est vraiment une couleur à part entière qui s'appuie en plus sur des matériaux magnifiques. Et voilà. Y a-t-il des personnes qui souhaitent poser des questions, Madame? Il faut appuyer sur un bouton qui est devant vous.
Voilà. Bonjour, je suis Béatrice Boisségur, je suis peintre. Je reviens à votre spectre, monsieur, parce que le spectre, c'est l'arc-en-ciel, et l'arc-en-ciel existe depuis la nuit des temps. Donc même les peintres, les hommes des cavernes, voyaient le spectre. Dès qu'il y avait un rayon de soleil et un peu de pluie. Dedans, il y avait le vert.
Pardonnez-moi, mais nous avons des milliers, peut-être des dizaines de milliers d'images et de descriptions d'arc-en-ciel antérieures à la découverte du spectre par Newton. Jamais, jamais ces arc-en-ciel ne ressemblent aux nôtres. Ils représentent 3 couleurs, 4 couleurs, parfois 5, et forment des séquences chromatiques qui n'ont aucun rapport avec notre arc-en-ciel. Or, le phénomène météorologique n'a pas changé au fil de l'histoire. C'est le regard des hommes qui a changé. La perception, c'est en partie biologique ou neurobiologique, en partie culturelle. Aujourd'hui aussi, en 2016, il y a des sociétés de la planète non occidentales qui voient l'arc-en-ciel tout à fait différemment de nous, qui le représentent différemment de nous, qui le décrivent différemment de nous. Donc, tant que Newton n'a pas dispersé la lumière blanche du soleil en rayons colorés et découvert cet ordre des couleurs qui est le spectre, les arc-en-ciel n'ont aucun rapport avec le classement spectral des couleurs. On en a des milliers de preuves.
C'est un point de vue
d'historien.
Puisque chaque œil est différent.
Non. Mais l'œil voit ce que l'intellect lui dit de voir. C'est en
je
cela que...
Je peux même vous donner un autre point de vue, d'ailleurs. Les daltoniens ne voient ni le rouge ni le vert. Peut-être dans votre étude, pourriez-vous étudier ce problème, parce que ça veut dire que beaucoup de gens n'ont peut-être pas eu le point de vue, justement généraliste, de la couleur et des mélanges du fait de cette incapacité biologique ou anthropologique.
Oui, derrière le daltonisme, il y a plusieurs troubles dans la perception des couleurs. Un des cas les plus fréquents, mais ce n'est pas le seul, c'est une certaine confusion entre le rouge et le vert. Affection dont était victime le grand Dalton, qui a donné son nom au daltonisme, un homme de science qui vit au tournant des 18e, 19e siècles. Et pour l'historien, c'est encore fascinant de voir que ce trouble de la perception des couleurs, notamment du rouge et du vert, se situe au moment où le vert est en train de devenir socialement et culturellement un des contraires du rouge, ce qui n'est jamais précédemment. Donc il y a un lien entre les découvertes médicales, la physiologie, les théories scientifiques et aussi les pratiques sociales, culturelles et même symboliques de la couleur. Ça n'est jamais complètement séparé.
François-Bernard Mache.
Oui, je voulais vous remercier pour cet exposé absolument passionnant et très clair. Il y a une question tout à fait futile que je voulais vous poser concernant le vert. Il me semble me souvenir qu'il y avait un proverbe au XVIe ou XVIIe siècle qui correspondait à une, ou peut-être même au Moyen-Âge, à une coutume selon laquelle au mois de mai, il fallait porter un peu de verdure sur soi, sinon on était pris sans vert.
Être pris sans vert, oui. Je crois que la plus ancienne attestation est au XIVe siècle, et on le dit encore en plein XVIIe siècle, pour fêter le renouveau de la nature, et ça tombe en général au début du mois de mai. Le bon usage veut que sur son vêtement, on porte un peu de végétal ou de couleur verte. Sinon, on est pris sans vert et on a un gage, une punition.
Mais alors, c'est un cas où le vert a un sens positif.
Oui, bien sûr. Toutes les couleurs ont des bons et des mauvais aspects. J'ai mis l'accent, à cause des difficultés à fixer le vert en peinture, sur des aspects plutôt négatifs. Mais il y a aussi les bons aspects de la couleur verte. Le problème, c'est qu'ils sont toujours associés à des choses qui bougent, qui changent, qui tournent. La jeunesse, c'est très bien et c'est vert. L'amour, c'est magnifique, mais ça tourne aussi. C'est vert pendant très longtemps. La chance, l'argent, la fortune, tout ça, ça a à voir avec la couleur verte. Et malheureusement, ça ne dure pas. Mais la période où on a sans doute en Occident le plus aimé la couleur verte, c'est probablement l'époque féodale, la période 11e, 14e siècle, la chevalerie, la courtoisie. Nous avons beaucoup de poésie lyrique qui chante la couleur verte, souvent associée d'ailleurs au rouge, elles font couple. Ce sont les deux couleurs de l'amour. L'amour naissant, c'est le vert. L'amour passion, c'est le rouge, qui peut tourner d'ailleurs à l'amour luxure ou fornication même. La palette de l'amour est assez diversifiée. Mais il y a quand même de très très bons aspects de la couleur verte. Et ce proverbe, être pris sans vert. Il y en a un qui lui fait écho d'ailleurs au XVIIIe siècle. Quitter le rouge. Quitter le rouge, ça se dit quand on quitte la vie mondaine pour se retirer sur ses terres, dans la bonne société. Donc on ne met plus, homme ou femme, de rouge sur son visage. On quitte le rouge. Je l'ai trouvé plusieurs fois ces derniers temps, parce que je suis en train de travailler sur la couleur rouge. Donc autour des couleurs, il y a comme cela un certain nombre de proverbes qui peuvent varier d'ailleurs d'une langue à l'autre, ce qui est assez intéressant du point de vue social et culturel. Et toutes sortes d'expressions et de locutions qui sont autant de documents pour l'historien des couleurs.
Vous avez évoqué aussi une chose intéressante, c'est la perception des couleurs dans l'Antiquité grecque, par exemple. Et je voulais savoir votre sentiment sur l'interprétation selon laquelle les adjectifs qui décrivent les couleurs, en grec en particulier, décrivent plus une façon de refléter la lumière qu'une longueur d'onde.
C'est la même chose en latin classique, hein. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de mal à traduire les termes de couleur des textes classiques parce que nous voulons mettre de la coloration là où les anciens mettent soit des effets de lumière, comme vous le dites, soit des effets de densité, de saturation. Évidemment, les langues modernes ont beaucoup de mal. Moi, je suis latiniste, le lexique de la brillance, par exemple, en latin classique, est insensé. Le nombre des mots est absolument considérable et le français moderne n'a pas assez de termes pour faire ces distinctions. Puisqu'on est dans les vers, un mot latin comme viridis, ça veut dire vert, bien sûr. Il n'y a pas beaucoup d'autres mots, prasinos peut-être, herbeus. Mais ça veut souvent dire, plus souvent sombre que vert, viridis en latin classique.
Et glace en breton aussi.
Glace, qui veut dire à la fois bleu, vert et gris même. Oui. Et c'est la couleur de la mer. Ce qui est difficile aussi par rapport aux sociétés anciennes, c'est que pour nous, les couleurs peuvent être devenues, pas toujours, mais souvent des choses abstraites. La couleur est devenu, en termes de grammaire par exemple, substantif, alors que dans les langues anciennes, elle est presque toujours seulement adjectif. Un Romain peut dire « j'aime les toges rouges, je déteste les fleurs bleues », mais il ne peut pas dire « j'aime le rouge, je déteste le bleu ». La couleur serait trop séparée de sa matérialité. Nous, tous dans cette salle, nous pouvons dire « j'aime le rouge, je n'aime pas le bleu » ou inversement. Et justement, le problème historique passionnant, c'est de voir comment ça s'est fait, à quelle époque on est passé vers cette abstraction, je ne vois pas d'autre mot, conceptualisation de la couleur au-delà de sa matérialité, comme quelque chose multi-supports ou trans-supports.
Est-ce que ce n'est pas les Byzantins avec justement les factions, la faction bleue?
Alors, tout ce qui relève de, disons, de l'emblématique joue un rôle dans cette abstraction de la couleur, et notamment l'héraldique, dans les couleurs du blason, les nuances ne comptent absolument pas. Hein. Quand on parle de l'azur des armoiries du roi de France, ça peut être bleu ciel, bleu moyen, bleu foncé, ça n'a aucune importance ni aucune signification. Donc on est déjà dans l'abstraction de la couleur. La liturgie, c'est pareil. Les couleurs liturgiques sont des couleurs conceptuel. La nuance ne compte pas. Pour la Pentecôte, c'est le rouge, la couleur mise en scène, mais n'importe quel rouge convient. Donc le changement se fait entre l'Antiquité tardive et le Moyen-Âge central, en quelque sorte, et le vocabulaire est un bon moyen, un bon champ d'observation. Comment passe-t-on de l'adjectif au substantif, soit en prenant les adjectifs au neutre et en faisant des substantifs, soit en transformant les substantifs qui existaient en latin classique, mais qui avaient toujours un sens figuré. Viriditas, ça existe en latin classique, mais c'est la fraîcheur, la jeunesse, c'est pas la couleur verte, ou très très rarement. Il va falloir dire viridé plus tard. Donc c'est des problèmes absolument passionnants et qu'on ne soupçonne pas. Pour nous, c'est évident que les couleurs peuvent être des catégories abstraites. Eh bien, ça n'a pas toujours été ainsi et il y a aujourd'hui encore des sociétés qui ont beaucoup de mal, en Afrique noire ou en Asie centrale, à comprendre ce qu'est, comme cela, le rouge, le bleu, le jaune. D'ailleurs, nos dictionnaires ont beaucoup de mal. Vous pouvez faire l'expérience chez vous. Ouvrez n'importe quel dictionnaire de langue à vert, bleu, jaune, rouge. Vous verrez que les auteurs de dictionnaires ont un mal fou à donner une définition de ces termes. On va trouver vert, qui est de la couleur des feuilles, qui est la couleur de l'herbe, oui, c'est un peu insuffisant comme définition. Ou alors on va trouver vert, qui dans le spectre se situe entre telle et telle longueur d'onde. Qu'est-ce que les sciences humaines peuvent faire d'une telle définition, hein? Mais même le mot couleur est indéfinissable. Vous ferez l'exercice, vous verrez dans le Robert, le Larousse ou un dictionnaire de langue étrangère, à couleur, comment définir ce mot de manière univoque? C'est un exercice impossible.
Merci.
Professeur Binet.
Oui, comment s'est fait l'évolution pour certains peintres du vert, et en particulier pour les peintres abstraits? Est-ce que, par exemple, Mondrian, quand il est passé, dans toute son évolution, qui fut très longue, quand il est vraiment devenu abstrait, quand il est arrivé aux États-Unis, j'ai envie de vous dire quelque chose qui est sûrement faux, j'ai l'impression qu'il n'a plus de vert, mais vous savez ça mieux que moi. Ça vous dit quelque chose? Comment il a évolué? Au début, Mondrian, il a beaucoup travaillé dans le vert.
Regardez, oui, bien sûr. Imposé.
Et puis, est-ce qu'au fur et à mesure de l'évolution, en particulier l'arrivée à New York, où tout est ligne, et comment s'est fait son... Moi, je suis incapable, là, de vous dire qu'est-ce que devenue l'évolution des couleurs à ce moment-là. Mais vous le savez sûrement.
Oui, Mondrian jeune pratique.
Non, mais Mondrian jeune, oui, ça c'est.
Couleur verte, oui. Comme beaucoup de peintres jeunes. Et puis, quand il. C'est la troisième période hein, de Mondrian,
oui,
que nous voyons ici. C'est l'abstraction. Et c'est la soumission à la théorie des couleurs primaires et des couleurs complémentaires, non pas tant sous l'influence de la peinture abstraite, que sous l'influence du design, qui lui est totalement esclave de cette théorie des primaires et des complémentaires, et qui est très économe, avare, du vert, de l'oranger et du violet. Même ce sont des couleurs que l'on rencontre très très rarement dans le design. Mais Mondrian, pour être juste avec lui, si je puis dire, il a quand même, dans sa période abstraite avec ses formes géométriques, fait quelques essais avec des variations sur le vert.
Oui. Mais là, par exemple, il n'y a pas de vert.
Non, je n'ai pas apporté d'image, mais j'aurais pu vous en montrer, mais c'est assez rare. La même chose, à peu près, du point de vue graphique, mais avec un peu de vert. De même que Paul Klee, sachant l'aversion de Kandinsky pour le vert, pour le provoquer, s'amusait à lui envoyer pour son anniversaire ou pour le 1er janvier, parce qu'ils échangeaient des cartes peintes qui sont des objets absolument magnifiques. Ils s'échangeaient tous les deux une correspondance picturale, s'amusait à mettre beaucoup de vert pour provoquer Kandinsky.
Merci beaucoup.
Et qu'est-ce que Kandinsky lui renvoyait comme couleur, alors?
Kandinsky a pratiqué le vert aussi, surtout après la Première Guerre mondiale, sa palette s'est diversifiée, le noir a pris une place très importante, ça lui a permis de poser sur du noir des couleurs plus variées que peut-être dans la période antérieure.
Et est-ce qu'on peut parler d'une hiérarchie des couleurs ?
Oui, ça dépend du domaine dans lequel on se trouve, mais il y a des hiérarchies, soit dans le discours, soit dans les pratiques. Quand on prend les recueils de recettes ou les manuels pour peintres ou pour teinturiers, il y a toujours des remarques sur les couleurs plus nobles que d'autres, ou simplement le plan d'un manuel. Par quoi commence-t-on ? Dans quel ordre ? À quelle couleur consacre-t-on le plus grand nombre de conseils ou de recettes ? Ça peut être une indication pour nous. Dans le domaine de l'héraldique que je connais bien, circule l'idée très tôt qu'il y a des couleurs plus nobles que d'autres. Les auteurs, d'ailleurs, ne sont pas tout à fait d'accord, mais d'un point de vue très très large comme ça, sur l'histoire des couleurs en Europe, je peux dire que jusque des origines peut-être paléolithiques jusqu'au XVIIIe siècle, la couleur préférée des Européens, c'est le rouge. Et du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, la couleur préférée des Européens, c'est le bleu. Voilà les résultats des enquêtes d'opinion. Dire ce qui est fascinant, c'est que depuis qu'on a des enquêtes d'opinion en Europe sur quelle est votre couleur préférée, c'est-à-dire depuis la fin du XIXe siècle, les résultats sont toujours les mêmes. Malgré les changements de société, les changements de lumière, les nouvelles matières, etc., ça n'a pas d'impact sur ces résultats. Toujours le bleu qui écrase tout devant le vert, puis le rouge. Et les résultats sont les mêmes dans tous les pays d'Europe. Il n'y a pas de différence, ou très peu, et les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Les mêmes, d'ailleurs, aux États-Unis, au Canada et en Australie ou Nouvelle-Zélande, comme si l'Occident faisait bloc autour de la couleur bleue. Alors que les mêmes enquêtes au Japon ou même en Amérique du Sud, ça donne des résultats assez différents. Et donc, pour moi, historien, ce qui est intéressant, c'est comment le bleu a pris lentement la place du rouge comme couleur préférée en Europe.
Gilles Cantagrel, pardon.
Oui, merci. Vous avez très justement souligné un certain nombre de connotations symboliques du vert, positives ou négatives d'ailleurs. Et ça rejoint une question dont vous avez sûrement la réponse et je me suis souvent posé. Quand on regarde de la peinture paléo-chrétienne religieuse dès le 4e ou 5e siècle, comme on en voit à Rome, à la crypte de Saint-Clément par exemple, ou également dans les mosaïques, on voit les saints personnages qui sont nimbés d'une auréole circulaire à fond d'or, ça, la symbolique est, me semble-t-il, très simple, le symbole de la perfection et l'or de l'éternité bienheureuse. Bon, en gros, c'est comme ça que je les lis, en tout cas. Et on voit quelques personnages vivants, en général le pape ou le Saint-Évêque qui a fondé l'église dans laquelle on se trouve et qui est représenté, lui, et c'est précieux pour la datation, avec un nimbe carré, signe de la terre, et un fond vert, et vert assez intense, en général. Alors, ce vert-là est-il le signe de la nature, de la vie ? C'est la question que je me suis toujours posée.
Il est le signe de la vie, et spécialement de la vie terrestre par opposition à la vie dans l'au-delà,
oui,
en quelque sorte à la résurrection, qui sera d'une autre couleur. Et la nuance n'a pas d'importance. D'ailleurs, c'est un fait général en matière d'emblématique et de symbolique. Les couleurs fonctionnent comme, là encore, des abstractions, et on n'a pas à accorder trop d'importance à la nuance colorée. Mais c'est la même chose quand on représente la croix ou le bois de la croix. Il y a un passage du vert au rouge ou du vert au doré qui est le passage d'une vie terrestre vers une vie céleste, en quelque sorte. C'est la lecture que j'en fais. Alors, quand on lit les pères de l'Église, grecs ou latines, ils sont assez bavards sur les couleurs. Le problème, c'est que il glose un texte biblique qui est un texte mouvant. Et il faut bien sûr partir non pas du texte de la Bible actuelle qui est très très loin du texte que les pères de l'Église avaient sous les yeux, et notamment pour les couleurs, parce que plus on avance dans le temps,
plus la Bible devient un texte coloré. Dans la Bible des Septante, par exemple, il y a très peu de termes de couleur. Puis dans les premières traductions latines, on commence à en ajouter. Puis dans les traductions ou versions ultérieures, encore plus. Et puis dans les traductions en langue vernaculaire, il y en a beaucoup. Donc il faut toujours faire l'effort de savoir à quel état du texte l'on a affaire. Mais les pères de l'Église sont bavards sur les couleurs, ça c'est vrai.
Claude Abeille.
Oui, je voulais vous demander, vous poser une question sur les couleurs complémentaires, parce que je voulais savoir à quel moment on a pris conscience de cela, parce que quand je vais à Avignon voir la collection Campana, qui a des peintures du XIIIe, XIVe siècle, il me semble que je vois bien déjà le vert opposé au rouge, le violet opposé au jaune. Est-ce que déjà à ce moment-là, on connaît ces règles ou bien ça vient comme ça par le goût du peintre ?
La théorie émerge lentement et vous avez raison, les plus anciens témoignages, en tout cas ceux que je connais, datent du XIVe siècle. Cette idée que, avec certaines couleurs, on peut en fabriquer d'autres et notamment que le rouge, le jaune et le bleu ne peuvent pas être des couleurs issues du mélange de deux autres couleurs. Ça se met en place lentement entre le XIVe et le XVIIe siècle. Mais ce sont dans des textes très savants auxquels les peintres n'ont sans doute pas accès directement, mais par rebond, en quelque sorte. Alors, il y a la théorie et puis il y a l'expérience, la pratique. Et c'est fascinant de voir comment les ateliers d'enluminure, les ateliers de peinture et les officines de teinturerie sont des laboratoires de recherche dans le domaine de la couleur. Ce n'est pas un hasard si le schéma que j'ai montré est sorti de l'atelier de Rubens, qui est un immense laboratoire chez un peintre qui est un des plus grands coloristes de tous les temps. Donc, pour la peinture avignonnaise, à l'époque de la papauté d'Avignon, vous n'avez pas tort, c'est déjà un peu dans l'air du temps. Ça n'est pas encore formulé expressément comme on le fera par la suite, mais on peut trouver déjà des embryons de pistes pour séparer en deux groupes des primaires et des complémentaires, qu'on appelle autrement, et puis les opposer comme des contraires, le vert contraire du rouge. Ce qui ralentit les choses, c'est que ça va à l'encontre des pratiques habituelles des couleurs, notamment dans le domaine du vêtement. Porter des vêtements verts et rouges, c'est porter le vêtement le plus ordinaire entre l'époque de Charlemagne et celle de Saint-Louis. C'est vraiment ce qu'il y a de plus courant en matière de couleurs vestimentaires. Et c'est pensé non pas du tout comme un contraste violent, mais contre quelque chose d'assez doux. En revanche, juxtaposer du jaune et du vert, ça c'est très violent pour l'œil médiéval, alors que pour nous, ce sont deux couleurs voisines dans le spectre. Également, un témoignage important, c'est celui du vocabulaire dans nos langues d'aujourd'hui, français, anglais, allemand, etc. Ce vocabulaire s'est formé avant que Newton ne découvre le spectre. Donc nécessairement, le lexique des termes de couleur en français contemporain reflète un classement antérieur à celui du spectre. Et donc, pas un philologue qui étudierait le vocabulaire français des couleurs et puis qui donnerait comme plan de son livre les couleurs dans l'ordre du spectre, ce serait absurde, il dirait des âneries énormes. Donc voilà pourquoi les choses sont compliquées. Nous ne pouvons pas projeter comme cela dans le passé, sans précaution, nos savoirs d'aujourd'hui, nos classements d'aujourd'hui, nos certitudes d'aujourd'hui, parce que ce n'étaient pas les savoirs ni les classifications des sociétés d'autrefois. Ce ne seront pas non plus les savoirs et les classifications des sociétés qui vont nous suivre. Hein. Les connaissances changent au fil du temps, parfois lentement, parfois plus rapidement. Et puis, dans le domaine des couleurs, il y a toujours un écart assez grand entre la théorie et la pratique, du point de vue chronologique.
Est-ce que Newton s'est aperçu de l'importance de ce qu'il venait de découvrir ? Non, mais c'était. Est-ce qu'il s'est aperçu que ça allait avoir des conséquences ou ce qui est purement, si je peux dire, une découverte d'atelier ou de physicien?
Newton est un physicien. C'est probablement le plus grand homme de science européen. Et en cette année 1666, il y a la peste à l'université de Cambridge. Il se retire chez sa mère, dans le nord de l'Angleterre. Et là, pendant l'été, il découvre deux choses. Le spectre, à cause des expériences du prisme, en décomposant la lumière blanche en rayons colorés. Et la gravitation universelle, à cause de l'histoire de la pomme qui est tombée du pommier. C'est quand même, pour l'histoire des sciences, une année particulièrement fastueuse. Alors, pour ce qui est des couleurs, il a tenu secrète sa découverte parce qu'il en a compris l'importance, mais inouï, il était presque effrayé par ce qu'il a découvert, et il n'en a pas parlé, il n'a pas écrit tout de suite, et d'autres savants moins connus étaient en train de faire des découvertes du même genre. Alors il s'est finalement décidé à écrire un traité d'optique où cette découverte est expliquée, mais il l'a fait d'abord en anglais, et l'anglais était une langue, c'est curieux à dire aujourd'hui, mais pas très pratiquée à l'échelle de l'Europe à la fin du XVIIe siècle, donc il a dû retraduire en latin pour être compris par tout le monde, c'est le latin bien sûr, et là, au tout début du XVIIIe siècle, donc cette découverte est connue de toute l'Europe. Mais il a fallu attendre encore un peu de temps pour qu'elle ait des conséquences sur la vie quotidienne et sur la création artistique, d'autant que ce sont des découvertes de physiciens, alors que les peintres sont plus en prise avec celles des chimistes, en quelque sorte, du moins dans un premier temps, même s'ils ont pour préoccupation de faire travailler la lumière. Il y a d'abord le problème des pigments. Enfin, on est dans une période, le XVIIe siècle, où on réfléchit énormément sur la lumière, les qualités de lumière, la nature de la lumière, et par extension des couleurs. Et c'est le XVIIIe siècle qui va en bénéficier. Le XVIIIe siècle est un siècle qui est passionné par la couleur, la coloration, la colorimétrie, les nuanciers, la déclinaison d'une même couleur en un nombre infini de nuances. Ça aboutit au traité des couleurs de Goethe, qui toute sa vie a pensé que Newton s'était trompé, mais ils ne parlent pas de la même chose, en fait, Goethe et Newton. Donc évidemment, ils ne peuvent pas s'entendre à un siècle de distance.
Y a-t-il d'autres questions? Aymeric Zublena.
Ce n'est pas une question, c'est une réflexion que je vais vous faire. J'ai été amené durant ma vie à m'occuper de l'urbanisme du centre urbain d'une ville nouvelle. Et l'architecte d'un des premiers bâtiments, il vient me voir à un moment, c'était des constructions en béton, il me dit « Je peins ça de quelle couleur ?» Alors, confronté à cette question très forte, je lui dis, écoute, laisse-moi un mois et je te réponds. J'étais très embarrassé, et en accord avec le directeur de la ville nouvelle, je lui dis, mais au fond, on pourrait consulter des peintres pour qu'ils nous donnent leur idée. Et alors, j'en invite quatre, et je leur dis, vous me faites un petit texte de deux pages au maximum, parce que quelques idées générales. Celui que nous avons retenu, je ne vais pas évoquer les trois autres, fait sa petite réaction de la façon suivante. Il dit, on pourrait décider que la couleur, c'est donc le centre urbain, c'est la partie la plus dense, la plus forte, la plus urbanisée. On pourrait décider que c'est une couleur blanche, ça évoquerait un cœur de marbre. Le risque, c'est que ça évoque un cœur de polystyrène. J'évacue le blanc. Il dit ensuite, on pourrait proposer le vert. Seulement, comme il y a d'autres quartiers de la ville nouvelle qui se développe dans un secteur moins dense, moins urbanisé, plus proche de la nature, laissons le vert aux autres quartiers. Il dit, nous pourrions prendre le rouge, ce serait très très fort, seulement le rouge, ça risque de se dégrader peu à peu en disant, bah oui, mais rouge, c'est ocre rouge, puis ocre rouge, c'est ocre jaune, et l'idée forte se perd. Et il dit, mais au fond, un centre urbain, c'est la décision très arbitraire, très technocratique, de créer à un endroit donné un urbanisme volontaire. Qu'est-ce qui exprime le mieux ce côté abstrait c'est le bleu. Alors, je vais voir le directeur de la ville nouvelle et je lui dis, écoutez, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Il me dit, laissez-moi 15 jours, je vous donne la réponse. Et il me dit, ok, d'accord, on y va. Alors, j'appelle mon confrère, je lui dis, écoute, tu peins en bleu. Ah, t'es complètement fou, c'est pas possible, c'est pas pensable, etc., etc. Le promoteur monte à l'assaut. Il dit, vous ne vous rendez pas compte, d'abord ça ne tiendra pas, ce qui est vrai, et puis c'est incroyable, c'est pas possible, non, non, blanc ou ocre, mais pas bleu. Nous avons tenu bon, et pendant 7 ou 8 ans, nous avons réussi à imposer aux promoteurs, qui évidemment s'opposaient farouchement à ça, le bleu. Et puis au fil des temps, ça s'est dégradé, ça s'est abandonné, les premiers bâtiments qui étaient bleus ont été repeints en ocre, ou en ocre pâle, en blanc un peu gris. Enfin, la banalité, quoi. Voilà, je vous livrerai cette réflexion.
Mais le bleu n'était pas un mauvais choix, c'est la couleur préférée de la moitié de la population. Et c'est une couleur relativement consensuelle. D'ailleurs, les grands organismes internationaux ne s'y sont pas trompés, qui tous ont un emblème ou un drapeau de couleur bleue. La Société des Nations entre les deux guerres, l'ONU aujourd'hui, l'UNESCO, le Conseil de l'Europe, l'Union européenne. Oui, tout ça, ça s'emblématise par le bleu, parce que le bleu, c'est assez pacifique et ça ne fait pas de vagues, c'est relativement neutre. Ça n'était pas, me semble-t-il, un mauvais choix.
Jean Guéra, et puis après, ce sera la dernière intervention.
Vous avez parlé tout à l'heure d'une couleur verte qui évoquait la jeunesse. Et la pomme de Newton me fait penser que les pommes, c'est vrai, commencent par être vertes. Et beaucoup de fruits commencent par être verts. Quand ils sont verts, ils ne sont pas mûrs, en quelque sorte. Ils sont acides. Et ils changent de couleur, n'est-ce pas ? Il passe souvent du rouge ou du jaune. Alors, c'est vrai, est-ce que ça a un rapport entre cette proximité du vert et du rouge dans le changement de coloration du fruit par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure de ces couleurs qui sont finalement proches pour les gens du Moyen-Âge ?
Oui, il y a un certain nombre de domaines végétaux où on passe du vert au rouge. Il y a d'ailleurs une phrase célèbre d'un grand ethnolinguiste à propos des mûres, le fruit de la ronce, les mûres sont vertes quand elles sont rouges. Ça veut dire que quand elles sont rouges, elles ne sont pas encore pleinement mûres, donc elles sont vertes. Ça prouve aussi que les termes de couleur dans toutes les langues sont des étiquettes et que l'écart est assez grand parfois entre la couleur nommée ou la couleur représentée par le peintre, par exemple, et la couleur réelle des êtres et des choses, hein, si tant est que réel veuille dire quelque chose. Nous tous, dans la salle, nous disons tous les jours vin blanc pour un vin qui n'a rien de blanc, mais absolument rien de blanc, et ça ne nous gêne pas, et on le fait depuis des siècles et des siècles. Ça souligne ce caractère conventionnel, étiquette, et donc fortement culturel des problèmes de la couleur.